J'avais envie de poser une question. Vraiment? Est-ce que vraiment c'est impossible de sortir du cycle métro-boudelot-dodo? Genre, personne n'est jamais parvenu à sortir de ce cycle. Voyager, c'est la vie, et la vie est un voyage. Je m'appelle Amandine, du blog Être et Voyager, et je vous invite à embarquer avec moi dans mes aventures, mes réflexions et mes rencontres pour sortir du métro, boulot, dodo. Le but ? Sortir d'une vie morne où l'on ne se reconnaît plus, identifier ses rêves et se lancer sur le chemin qui y mène. Un pas après l'autre, je suis persuadée que tout est possible. Pour moi, mais aussi pour vous. Bonjour. Pour ce retour du podcast Voyage bien fait, je voulais m'attarder sur une question que je vois assez fréquemment revenir, sur le fait que, en fait, on pense souvent qu'il est impossible de sortir du cycle métro-boulot-dodo. Et en fait, j'avais envie de poser une question. Vraiment ? Est-ce que vraiment c'est impossible de sortir du cycle métro-boulot-dodo ? Genre, personne n'est jamais parvenu à sortir de ce cycle. Je pense que quand on dit personne, on se doute bien que la réponse est ben non, ça doit arriver. Et j'en suis convaincue. Et j'aimerais d'ailleurs, pour cet épisode de retour du podcast Voyage bien fait, vous partager les quelques trucs et astuces que j'ai en tête. Et pour être plus précise, en fait, ce retour du podcast fait partie d'un défi un peu fou que je me suis lancé durant ce mois de mars 2021, du coup. Il se trouve que ce mois de mars est assez compliqué au niveau de mon boulot à l'heure actuelle. Et pour contrebalancer ça, j'ai décidé de prendre un peu plus de temps pour vous partager du contenu sur mon blog et aussi, du coup, en podcast. Et donc, du coup, ce défi fou consiste à produire 35 contenus en 35 jours. Donc, autant dire que c'est un contenu par jour pendant 5 semaines. Et donc, du coup, pour faire ça, j'ai décidé de parler d'un thème chaque semaine, un thème différent. Et donc, cette semaine, tous mes articles depuis lundi étaient un peu liés à cette problématique du fait de sortir du métro boulot dodo. Comment faire ? Parce que oui, c'est possible. Il y a plusieurs étapes, c'est un long chemin, on va pas se mentir, mais c'est possible. Et donc, ici, dans ce podcast, dans cet épisode, je vais un peu reprendre toutes les idées que j'ai pu traverser à travers ces 6 articles de la semaine. Donc, je ne vais pas aller aussi profondément pour chacun des thèmes que les articles, je ne pense pas. Mais par contre, comme ça, ici, vous aurez une vue d'ensemble et je mettrai évidemment les liens vers les différents articles dans les notes du podcast. Donc, la première chose que... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Du coup, pour cet enregistrement de podcast, ici, je le fais du coup samedi soir pour pouvoir avoir le temps de vous le monter dimanche et de le publier dimanche. Et donc, j'ai décidé de l'enregistrer sous un format un peu différent, c'est-à-dire que j'ai ma petite boisson chaude à côté de moi. Donc, si vous m'entendez boire, ben, c'est normal. J'ai décidé de me créer mon petit cocon de confort parce que je me suis dit que comme ça, on partageait un moment ensemble. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à vous aussi prendre votre petite boisson chaude pour écouter mon petit blabla sur le fait de sortir du métro boulot dodo. Donc voilà, enfin, continuez votre vaisselle si c'est ce que vous êtes en train de faire, évidemment. Mais voilà, moi je suis tranquillement avec ma petite boisson chaude pour vous parler. Et donc j'en profite pour boire un coup, n'est-ce pas? Donc, je ne vais pas reprendre les articles dans le même sens que l'ordre dans lequel je les ai publiés. Je vais essayer de rendre ça un peu plus logique, vu qu'ici, l'idée est de passer en revue tous les points que j'ai abordés, en essayant de trouver un fil conducteur, parce qu'en fait, il y en a un. C'est juste que je l'ai fait de façon très chaotique durant cette semaine dans les articles. Donc, le premier point que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est en fait que l'une des premières étapes possibles pour sortir du cycle métro-boulot-dodo, c'est en fait de rendre le travail fun. Parce que oui, en fait, c'est possible de rendre au moins le travail plus drôle. Alors, on va pas se mentir, hein, si on n'aime pas son job, ça va pas être du jour au lendemain qu'on va le trouver merveilleux, magnifique, et qu'on va se lever avec la pêche le matin pour pouvoir y aller tous les jours. Voilà, c'est pas comme ça que ça marche, mais par contre, il y a vraiment moyen d'alléger son mental, d'alléger la pression qu'on se met, d'alléger son stress, et du coup de rendre les choses plus drôles et plus vivables, plus confortables au quotidien. Et donc, même s'il s'agit d'une solution temporaire, parce que évidemment, donc c'est une solution temporaire, parce que ben, si on n'aime pas son job, on n'aime pas son job. Mais vu que si on veut sortir du cycle métro-boulot-dodo et qu'on n'aime pas son job, il est possible que l'une des solutions soit de changer de job. Et peu importe que ce changement se fasse au niveau vraiment du job ou de ce qu'il y a tout autour, le changement, ça prend du temps. Et donc, tant qu'à faire, autant pendant qu'on est dans cette phase de changement, autant alléger le plus possible son humeur et son quotidien. Donc, ce qu'il y a aussi, c'est qu'en fait, quand on change notre humeur, on change le monde qu'il y a autour. Donc c'est pour ça aussi que c'est important. Donc, casser le rythme du métro-boulot-dodo en rendant le travail fun, c'est possible. Et l'une des techniques, en fait, c'est simplement la musique. Donc, écouter une musique soit entraînante pour vous motiver le matin, soit vraiment en train de travailler pour vous motiver à faire des tâches que vous n'avez pas envie de faire, pour éviter le bruit autour qui pourrait vous énerver, pour plein de choses aussi. Ça peut être simplement pour vous détendre. La musique sert à beaucoup de choses, donc c'est vraiment pour moi un élément clé dans le fait de rendre le travail plus drôle, d'alléger en tout cas la pression que l'on se met. Moi, ce qui m'aide beaucoup au niveau de cette pression du travail, c'est que je me suis fixé une date limite, donc pour fin 2021, quoi qu'il arrive, je ne travaille plus là où je suis. Et en fait, le fait de mettre cette date limite, ça permet vraiment d'alléger, de remettre en perspective tous les événements qui peuvent arriver durant cette période. Parce que s'il y a quelque chose qui me rend complètement malade ou qui ne me correspond pas du tout, je me dis que ben, finalement, c'est pas si grave que ça. Parce que voilà, là, je le vis, là, je dois bien le supporter, mais bientôt, ce sera fini. Et sinon, un autre truc que je donne dans l'article aussi, par rapport à tout ce qui est tâches qu'on ne supporte pas faire, donc notamment dans les tâches répétitives qui peuvent être très vite assez rébarbatives, il y a un petit moyen de le rendre un peu plus fun. C'est en fait de rentrer en compétition avec soi-même. Donc par exemple, je ne sais pas si vous devez écrire toujours à peu près la même chose, voir combien de fois vous pouvez l'écrire en 10 minutes et voir si la fois suivante, sur les 10 prochaines minutes, vous êtes capable de le faire de faire plus de lignes sur ces 10 minutes. Donc c'est un petit aspect compétitif. Mais pour tout ce qui est tâches bien spécifiques comme ça, j'en parle un peu plus profondément dans l'article, donc je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse. Donc, une fois qu'on a rendu le travail un peu plus fun, on est plus léger, on est plus tranquille, on est plus détendu, on est de meilleure humeur. Mais il y a une chose de plus à faire qui est pour moi absolument essentielle. Même si on trouve son travail cool d'ailleurs, c'est pour moi un truc essentiel que l'on doit absolument garder tout au long de sa vie, c'est de garder un moment quotidien pour soi. Donc chaque jour, se trouver minimum une demi-heure pour reprendre son souffle, se recentrer sur soi, déstresser et faire une activité qui nous fait du bien. Peu importe ce que c'est que cette activité, du moment que ça nous fait du bien. Donc ça peut être lire, écrire, s'étirer, faire du sport, danser, chanter, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, dessiner, prendre un bain, se promener, bricoler, enfin, vraiment tout ce que vous voulez, du moment que ça vous fait du bien, c'est le plus important. Et évidemment, durant cette demi-heure pour vous, l'idée, c'est vraiment de vivre ce moment au présent. Pas besoin de cogiter sur tout ce qui s'est passé avant ou tout ce qui va devoir se passer après. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment vivre cette demi-heure tout seul pour bien se recentrer, bien souffler et pouvoir redémarrer, ressourcer, en fait. Une autre façon, donc ça c'est un des autres articles du coup de la semaine, c'était le fait de prendre du temps pour sa passion. Parce que prendre du temps pour sa passion, eh bien ça donne aussi de l'énergie, ça détend, et donc il n'y a rien à faire. Hein, quand tous ces éléments que je vous donne et qui permettent de se détendre et de déstresser, eh bien du coup ça a un effet sur la santé. Parce que tout le monde sait que bah, le stress c'est pas génial pour la santé. Surtout à long terme. Le stress à petite dose, c'est bon. Le stress à haute dose, sur des longues périodes, c'est vraiment très néfaste pour l'organisme. Et donc le fait de se détendre, de déstresser, tout ça, eh bien, on évite bah, les problèmes de santé que l'on n'a très clairement pas envie d'avoir. Tout ce qui est maladie cardiovasculaire, tout ce qui est problème lié certainement aussi au cholestérol, enfin, tout ça, très clairement, je n'ai pas envie de les vivre. Donc, autant me déstresser comme je peux, me détendre, prendre un moment pour moi. Et donc très clairement, prendre du temps pour sa passion, ça fait partie de ces choses qui donnent de l'énergie et qui font du bien. Alors après, vous allez me dire, bah oui, c'est bien beau, mais comment profiter du moment présent? Alors il se trouve que c'était aussi l'un des articles de cette semaine. J'ai quand même bien pensé ça. Je les ai un peu mis dans le désordre, mais j'ai bien pensé ça. Donc du coup, comment profiter du moment présent? D'ailleurs, pourquoi profiter du moment présent? Parce que quand on y pense, la plupart du temps, quand on est dans le cycle du métro-boulot-dodo, enfin, c'est le ressenti que j'ai, en tout cas, j'ai l'impression qu'on est tout le temps en train de courir après le temps. Qu'il s'agit de... Des fois, on court après le temps simplement pour fuir le passé, ou pour s'échapper même du présent parce qu'on n'a pas envie de le vivre. Ou pour courir vers le futur parce on se dit que plus tard ça ira mieux. Mais en fait, le problème c'est que le fait de courir tout le temps après ce temps, bah, à nouveau, c'est du stress. Du stress, du stress, du stress, toujours du stress. Et à nouveau pour la santé, voilà. Donc, sans rien changer aux faits, sans rien changer à sa vie, il y a moyen de diminuer ce stress rien qu'en profitant du moment présent. Donc même sans ajouter ces éléments dont j'ai parlé avant, donc le fait de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour sa passion, sans changer tout ça, sans ajouter ça, profiter du moment présent a déjà un impact énorme. Parce que en fait, ça nous permet justement de retirer cette pression liée au fait de courir après le temps. Et donc, il y a évidemment différents trucs pour pouvoir profiter correctement du moment présent. Il y a le fait de respirer. Donc, par exemple, il faut inspirer longuement, puis bloquer sa respiration, puis expirer longuement par la bouche, puis bloquer sa respiration et le faire deux, trois fois. L'air de rien, rien qu'en jouant sur sa respiration comme ça calme et ça déstresse. Et ça permet de se recentrer sur ses sensations et donc d'être plus présent, d'être plus conscient du moment présent. Donc, juste pour l'exemple, on inspire par le nez. On bloque. On expire. On bloque. On inspire. On bloque. On expire. Voilà, c'était juste un petit moment. Je ne sais pas si vous l'avez fait avec moi, mais l'air de rien, ça calme, ça déstresse. Ça permet aussi, si on se concentre bien, d'avoir des sensations au niveau de sa cage thoracique, de son ventre, tout ce qui gonfle et tout ce qui se dégonfle, l'air qui passe à travers ses racines, ouh, ses narines, c'est mieux, l'air qui passe à travers ses narines, dans sa gorge. Il y a vraiment, vraiment moyen de se recentrer sur ses sensations. Et d'ailleurs, se concentrer sur ses sensations, c'est aussi un autre moyen de profiter du moment présent. Par exemple, vraiment en utilisant ces cinq sens. Ce que vous touchez, ça a quelle texture, est-ce que c'est agréable ou pas, ce que vous entendez, qu'est-ce que ça fait. Si vous faites vraiment très attention à tous vos sens, les sens sont ancrés dans le présent. Et donc du coup, si vous y faites attention, quoi qu'il arrive, vous revenez dans le présent. Donc c'est vraiment un bon moyen. Et sinon, un autre moyen, c'est aussi se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Parce que si on est en train de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire, très clairement, on est dans le présent. On n'est pas dans le futur ou dans le passé. Et donc on est plus présent et moins stressé aussi. Il y a aussi toujours moyen de voir un peu les avantages de choses qui nous paraissent déplaisantes. Et si on essaye de voir les avantages au fur et à mesure de ces choses qui nous énervent ou qui ne nous plaisent pas, ça nous permet aussi plus facilement de les accepter pour pouvoir les vivre sans vouloir les fuir. Après, tout ce que je donne ici, ça fonctionne peu importe où vous en êtes, mais évidemment, c'est surtout des solutions pour alléger le présent dans ce cycle du métro-boulot-dodo. Mais l'idée, c'est d'en sortir. Et donc, pour en sortir, en fait, il faut passer par le fait de définir ses objectifs. Parce que c'est bien beau de vouloir sortir du métro-boulot-dodo, mais ça veut dire quoi exactement pour vous, sortir du métro-boulot-dodo? Est-ce que ça veut dire changer de travail? Est-ce que ça veut dire garder plus de temps pour d'autres activités? Est-ce que c'est passer plus de temps avec votre famille? Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire pour vous sortir du métro-boulot-dodo. Et en fait, je pense vraiment que cette question, et donc du coup cette réponse surtout, est différente pour chacun. Parce que nous sommes tous uniques, nous avons tous nos envies, notre vie. Et donc, du coup, nous avons tous notre propre réponse sur ce qu'est le métro-boulot-dodo et sur ce qu'est la vie que l'on veut vivre, en fait. Et donc, définir cet objectif de façon plus précise est importante parce qu'en fait, ça nous permet de savoir où on veut aller. Je ne sais plus qui a dit ça. Mais c'est un petit peu comme quand on est sur un bateau et qu'en fait on navigue sans très bien savoir où on va, on va finir par tourner en rond et aller nulle part. Tandis que si on a une direction où on veut aller, on finira par arriver à bon port à un moment ou à un autre. Donc du coup c'est important de définir ses objectifs. Et il faut qu'ils soient précis et pas vagues, parce que s'ils sont vagues, en fait ce sont des rêves. Alors, honnêtement, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez à quel point les rêves, je considère que c'est super important. Parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment le premier pas pour savoir vers où on veut aller. Mais un rêve reste très vague et très, très flou. Et donc, du coup, il ne permet pas de maintenir un cap dans une direction qui nous fait vibrer. Et donc, pour ça, il faut transformer ses rêves en objectifs. Une façon de faire que j'explique dans l'article dédié sur le blog, c'est l'utilisation de la méthode SMART, qui est assez connue, surtout dans l'entreprise, je pense, pas nécessairement au niveau personnel, alors que ça peut tout à fait s'adapter à n'importe quel contexte. Et donc SMART, c'est un acronyme, donc S-M-A-R-T. Le S, c'est pour spécifique. Le M, c'est pour mesurable. Le A, alors, ça vient de l'anglais, donc on traduit soit par actionnable, soit pour ambitieux, selon la façon dont on voit les choses. Le R, c'est pour réaliste, et le T, pour temporellement défini. Et donc, du coup, spécifique, de nouveau, il faut que ce soit précis, pas vague, mesurable, comment est-ce que vous savez que vous avez avancé vers votre objectif, comment vous savez que vous l'avez atteint. Il faut qu'il y ait des choses concrètes pour pouvoir dire si oui ou non l'objectif est atteint. Et donc du coup, la direction qu'on veut prendre. Donc ça, c'est le côté mesurable. Le côté actionnable, ambitieux. Alors actionnable, pour moi, c'est vraiment une condition sine qua non. Parce que en fait, s'il n'y a pas moyen de le mettre en action, et bah, de nouveau, ce n'est absolument pas un objectif, c'est un rêve. Un objectif, c'est une chose vers laquelle on peut aller et à laquelle on va aller en mettant en place des actions et en agissant un petit peu tous les jours, avec un petit pas chaque jour. Vous me connaissez, j'aime la méthode des petits pas. Donc du coup, voilà, actionnable, c'est absolument nécessaire pour moi. Le côté ambitieux, c'est plus dans le sens avoir un objectif qui vous motive. Si c'est un truc trop facile à atteindre, on va avoir tendance parfois à procrastiner, à se dire « bon, bah, c'est pas si important parce que je sais que je peux le faire ». Tandis que s'il est un peu ambitieux, on se dit « ah, il y a quand même un petit challenge derrière ». Est-ce que je sais qu'il y a quand même moyen, mais ça ne va pas être simple et je vais me donner les moyens pour réussir. Donc c'est ce côté-là. Maintenant, le R de SMART, donc pour réaliste, rappelle bien qu'il faut que ce soit réaliste. Si à l'heure actuelle, vous travaillez 50 heures semaine et que tout à coup vous dites en fait je veux avoir 50 heures semaine pour rester chez moi et être tranquille auprès de ma famille, et bien tout de suite ça va être un peu compliqué. Donc il faut bien s'ancrer dans le présent et se dire qu'est-ce qui est actionnable là maintenant tout de suite, qu'est-ce que je peux mettre en place selon ma réalité d'aujourd'hui. Après, le point suivant, c'est du coup temporellement défini. Donc, il faut voir aussi, votre objectif, ça peut être dans 5 ans. Alors, du coup, dans 5 ans, oui, c'est possible. Maintenant, si c'est pour dans un mois, là, j'ai un doute. Donc, il faut vraiment bien définir cet objectif au niveau SMART pour voir un peu ce qu'on veut précisément. Ça, c'est une méthode assez bien connue, mais dans l'article, je donne quelques trucs supplémentaires. Il y en a un notamment qui est par rapport à cette durée de l'objectif. Moi, j'ai tendance un petit peu à faire des SMART en cascade, comme j'appelle ça. Donc en fait, je donne un objectif pour dans 5 ans, qui du coup est plus vague que si c'était pour plus proche, parce que dans 5 ans, je ne sais pas exactement tout ce qui va se passer entre, mais comme ça, j'ai une direction globale. Donc un SMART pour dans 5 ans, mais aussi un pour dans 1 an, un pour dans 6 mois, un pour dans 3 mois, à chaque fois qui découle du précédent. Donc qui reprend des petits bouts, qui devient de plus en plus concret parce qu'on se rapproche de plus en plus du présent. Ça peut être aussi pour le mois, pour la semaine et pour la journée. Alors en général, pour la semaine et pour la journée, c'est pas très smart, c'est plus une liste de tâches qui découle de tout le reste, mais c'est vraiment un truc qui peut être utile pour définir ses objectifs et savoir dans quelle direction on veut aller pour sortir du métro boulot dodo. Donc voilà, il y a d'autres trucs évidemment qui sont donnés dans l'article. Et finalement, le dernier point, le dernier article que j'avais écrit sur ma semaine, c'était comment s'organiser en fait pour sortir du métro boulot dodo. Parce que oui, ça demande de l'organisation pour trouver le temps, notamment. Parce qu'on n'a pas envie de non plus dire non à des choses qui nous intéressent, à des choses qui sont importantes pour nous, tout ça parce qu'on n'a pas le temps. Et, Et il ne faut pas oublier au niveau organisation qu'en fait, chaque vie est unique, nous sommes tous uniques. Et donc, évidemment, chaque organisation va être unique aussi et adaptée à la vie de chacun. Donc, il y a des principes généraux, d'ailleurs, j'en partage quelques-uns. Mais il ne faut pas oublier de partir de votre présent, de votre vie actuelle et de vous organiser en fonction. Pour donner deux bêtes exemples, quand j'ai commencé à voyager, je ne voyais pas le voyage de la même façon que la façon dont je le vois maintenant. Donc mon organisation a évolué au fur et à mesure. Au début, j'étais très tout programmée presque à l'heure près. et maintenant, c'est presque, globalement, je sais dans quelle région je suis et puis j'aviserai au fur et à mesure. Mais il y a quand même une organisation derrière, selon les points que moi je trouve importants pour me sentir bien. Un autre exemple que je pourrais vous donner, c'est par rapport à un petit peu à ma situation actuelle, en fait. Donc vous savez que j'ai fait un burn-out il y a un an et demi à peu près. Et maintenant ça va mieux, on va pas se mentir, je n'en suis toujours pas vraiment sortie. J'ai toujours pas mal de conséquences de ce burn-out, mais ça va beaucoup mieux. Mais par contre, il y a vraiment eu une organisation avant et après burn-out. Avant, je pensais vraiment être organisée et en réalité, je l'étais, sauf que j'avais oublié des faits essentiels dans cette organisation, qui étaient notamment le repos et la gestion du stress. Et donc du coup, c'est des choses que j'ai remis un peu en place après, depuis que j'ai réalisé, je vais dire, que j'ai été en burn-out. Et donc, pour moi, au niveau de l'organisation, la première chose qu'il faut noter dans son planning, c'est nos heures de sommeil. Nous avons tous, c'est prouvé scientifiquement, nous avons tous besoin minimum de 8 heures de sommeil. C'est plus de 90% de la population qui a besoin de plus de 8 heures de sommeil. Donc, à mon sens, il faut bloquer au minimum 9 heures sur notre planning pour tout ce qui est dodo. Pourquoi 9 et pas 8, du coup ? Comme ça, on a juste le temps d'aller se coucher tranquille et de se lever tranquille sans se presser et en ayant quand même nos 8 heures de sommeil. Donc pour moi, c'est vraiment la première chose à mettre dans son planning, c'est vraiment nos heures de sommeil. Après, on reste dans les fonctionnalités de base de notre corps parce que pour moi, la seconde chose à mettre dans notre planning, c'est nos heures de repas. Toujours prévoir au grand minimum une demi-heure pour chaque repas. Et quand je dis chaque repas, c'est chaque repas. Ne pas en sauter un juste parce que vous n'avez pas le temps. Vous pouvez en sauter un parce que vous avez envie de faire du jeûne intermittent. Ça, chacun ses choix. C'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est vraiment ne pas manger parce que pas le temps, parce que trop à faire, parce que j'ai pas prévu, parce que. Mais pas pour une vraie raison choisie, en fait. Et c'est pareil pour tout ce qui est manger en travaillant ou manger en 5 minutes une cochonnerie qu'on a trouvée en bas de la rue, chez la friterie du coin, par exemple. Donc, très clairement, pour moi, il faut planifier ses repas. C'est important. Et puis après, prioriser ce qui est important dans son planning. Donc ici, par rapport au fait de sortir du métro boulot dodo, je pense vraiment que ça doit être une action quotidienne pour aller vers cet objectif, quel qu'il soit selon votre définition. Maintenant, si votre objectif, par exemple, c'est passer plus de temps avec ma famille, c'est chaque jour, j'essaye de bloquer un moment pour justement passer ce temps qualitatif avec ma famille. Donc, voilà. Et donc, du coup, là, on est passé un peu à travers tous les points. Je pense que ce podcast sera un peu plus long que ceux que j'avais l'habitude de faire avant. On verra pour les prochains. Je ne me mets pas trop de temps, de limites, tout ça pour la suite. Mais je voulais finir en rappelant que en calmant son mental, en fait, on se fait aussi du bien physiquement parlant. Et en plus, en calmant son mental, on est déjà en train de sortir du métro boulot dodo. Et on se fait du bien. Et en sortant du métro boulot-dodo, eh ben, en fait, c'est le premier pas pour se créer la vie de nos rêves, la vie qui nous correspond vraiment, cette vie que l'on devrait déjà avoir, mais que bah, voilà, on s'est un peu égaré en route, ça arrive. Il n'y a pas de souci, il est temps de se réorienter. Et c'est possible en agissant, en se calmant, en se mettant des objectifs et surtout en agissant tous les jours, petit pas par petit pas. Et donc voilà, je vais vous quitter pour aujourd'hui. Je suis contente d'avoir enregistré ce podcast et de vous retrouver en fait sur ce format qui est différent. Même si j'adore écrire ici, ben voilà, j'essaye de papoter. J'essaye d'être plus à l'aise aussi. C'est très clairement pas la façon dont j'ai l'habitude de m'exprimer. Papoter oui, mais avec quelqu'un, pas papoter face à un micro, c'est un petit peu particulier. Donc j'espère que vous aurez aimé cet épisode et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner et de noter ce podcast sur votre plateforme de podcast favorite, comme Apple Podcast par exemple. N'hésitez pas non plus à passer sur mon site êtreetvoyager.com avec des tirets et à télécharger les premiers pas nécessaires pour aller vers la vie de vos rêves. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Voyage bien fait.